Les Rendez-vous de la Francophonie is an annual celebration that promotes the French language, heritage, and its numerous cultural expressions. The Canadian Foundation for Cross-Cultural Dialogue, in partnership with the National Campus and Community Radio Association, and this station present Les RVF Marathon, which aims to promote language duality in Canada across the country. Stay tuned for this marathon day of the Rendez-vous de la Francophonie and visit www.ncra.ca/RVF for more information on this event.
Professeur de linguistique à l'Université Brock, Jean Intakerutimana, nous parle du bilinguisme au Canada et dans les expressions littéraires. Alors Jean, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, pourrais-tu en premier lieu décrire le bilinguisme dans l'Ontario parmi la population et dans l'enseignement?
Le bilinguisme à l'Ontario, dans l'enseignement et dans la vie de tous les jours, concerne la langue française dans un milieu majoritairement anglophone. Généralement, ce sont des familles francophones canadiennes ou francophones immigrantes qui s'installent dans une Ontario majoritairement anglophone. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, le bilinguisme idéalement consisterait à ce que les gens s'expriment, parlent, vivent dans les deux langues, en anglais et en français. Officiellement, c'est comme ça qu'on conçoit le bilinguisme en Ontario.
Mais bon, dans l'Ontario, il y a des régions où il y a plus de personnes bilingues que dans d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Quelles sont les régions où le bilinguisme existe vraiment?
Notre belle région du Niagara, nous avons une population francophone très dynamique qui vit et qui fonctionne en français, qui s'exprime en français. Nous avons là des régions comme Sudbury, nous avons les grandes villes comme Toronto avec des populations francophones assez importantes. La région torontoise où l'on voudrait avoir une université francophone. Parmi les raisons qui ont encouragé à vouloir créer cette université, c'est parce que statistiquement, on s'est rendu compte qu'on aurait une population francophone intéressée par des études supérieures universitaires en français.
Et puis, il y a bien sûr Ottawa.
Ottawa, bien sûr, la grande capitale que j'oublie et je m'excuse.
Voilà. Alors, on en vient maintenant au bilinguisme littéraire au Canada. Pourrais-tu nous en dire quelques mots?
J'avoue, parce que je ne suis pas nécessairement littéraire, je pourrais peut-être commettre des gaffes, mais nous savons qu'au Canada, il y a une grande production littéraire francophone, valide et valable, et très intéressante, vivante. Nous savons qu'il y a des auteurs qui écrivent en français, pas seulement des œuvres littéraires comme des romans, mais de la poésie, de la musique, des créations artistiques en français et en anglais. Nous avons des auteurs bien connus comme notre ami que vous connaissez très bien, Paul Savoie, qui écrit aussi bien en anglais qu'en français. Nous avons des artistes comme l'artiste qui nous a visité il n'y a pas longtemps, Daniel Dugas du Nouveau-Brunswick, qui écrit en français et en anglais.
Paul Savoie, dans l'heure OV en 2015, je cite « Il y a cette plaine et, sur un damier, une simple présence, une forme inéluctable. On pourrait l'ausculter depuis l'avion qui passe au loin ou de plus près, le ciel maintenant perçu à partir du sol, à partir de l'unique peuplier, un de ces arbres qui n'en finissent plus de paraître trop grand. Comme une envie de s'y hisser. On dirait qu'il s'étend à tout jamais sous l'écran céleste. Immobile, en totem, il attend, un avion passe. » Fin de citation. De nouveau, Paul Savoie, en 1989, et je cite de nouveau, « L'odeur de levure s'entremêle à l'odeur de pollen. Je sens l'orge et la moutarde. Le champ a oublié de se donner des limites. Je transgresse ma propre noirceur, je m'enfonce dans le sillon, la terre se referme sur moi. » Fin de citation. Paul Savoy est une des voix les plus importantes de la francophonie canadienne. Manitobain d'origine et ontarien d'adoption, il dirige le Salon du livre de Toronto depuis 2010. Il publie de la poésie, des nouvelles, des romans et des récits. Il est également parolier et musicien. Sa formation universitaire portait sur les littératures francophones et anglophones. En 1974, il publie un premier recueil de poésie, Salamandre, aux éditions du Blé dans le Manitoba. Il publie aussi en anglais, en 1982 par exemple avec Acrobats. Parmi ses nombreuses œuvres en français, on compte Nahani, À la façon d'un charpentier, Main de père, À tue-tête, L'empire des rôdeurs, Crac, Dérapage, Bleu bémol. En anglais, il a publié notamment The Meaning of Gardens, Dead Matter, Shadowing et Fishing for Light. Son œuvre poétique a été récompensée par le prix du Consulat de France en 1996. Il a également obtenu le prix Trillium en 2006 et de nouveau en 2012. Le prix Champlain lui a été remis en 2012. En 2001, Paul Savoy offre une très belle citation à Roger Léveillé qui dresse son portrait d'auteur dans la revue Francophonie d'Amérique. Je lis. Je crois que l'inquiétude dégouline sans cesse dans mes écrits, dans mes images, une sorte d'angoisse devant ce qui peut s'échapper, nous glisser entre les doigts, devenir intangible ou introuvable. Si, dans mes écrits, je m'attache avec autant d'acharnement à la découverte du corps, au côté physique, tangible de l'existence, c'est sans doute parce que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être suffisamment ancré dans les choses. Paul Savoy, tu es auteur franco-canadien, c'est-à-dire œuvrant en milieu linguistique minoritaire. Quels sont les plaisirs et les défis de ce statut compliqué?
Les plaisirs, c'est que c'est un milieu intime. On finit par se côtoyer beaucoup, puis sentir qu'on a les mêmes difficultés, les mêmes obstacles. On finit par former vraiment une belle collégialité. On s'appuie beaucoup. Parmi les défis les plus difficiles, c'est exactement le fait d'être un petit peu éloigné. Parfois, lorsqu'il s'agit de faire connaître nos livres, de les faire circuler, ça ne fonctionne pas si bien que ça. On est souvent assez ignoré. Je pense que c'est le sentiment d'isolement qui est le plus difficile. Alors, il faut finir par s'y habituer et vivre avec ça.
Même si tu es compté parmi les auteurs franco-canadiens, tu écris également en anglais. Comment ce travail en anglais se présente-t-il? De quelle manière se différencie-t-il de ton écriture en français? Je sais que tu écris certains ouvrages en français. Pour d'autres genres d'ouvrages, tu préfères l'anglais?
Oui. Je souligne que j'ai grandi dans les deux langues. J'avais une mère qui se débrouillait assez mal en français et un père avec qui je ne parlais jamais en anglais. Même chose pour mes grands-parents. Mon grand-père parlait à peine l'anglais, puis ma grand-mère avait de la difficulté en français. Donc, on utilisait toujours les deux langues. Le côté émotionnel, pour moi, souvent, ça s'exprimait en anglais. Et le côté plus pratique, intellectuel, s'exprimait en français. Dans ma vie d'écrivain, ça s'est exprimé des deux façons. Au début, je savais pas dans quelle langue je voulais écrire, mais éventuellement, parce que je vivais à Saint-Boniface, j'enseignais au collège à ce moment-là, c'était plus évident que je devais le faire en français. Alors, mes premiers livres ont été publiés en français, mais pendant tout ce temps-là, j'écrivais également en anglais. Et lorsque je vis dans un milieu francophone, j'ai tendance à écrire en anglais. Lorsque je vis dans un milieu anglophone, j'ai tendance à écrire en français. En anglais, j'écris des livres plus... Là, j'ai un livre qui va paraître bientôt, ça va être la science-fiction. Des contes d'horreur, des choses beaucoup plus difficiles, agressives même. Et en français, c'est pas assez abstrait, tendre. Ça reflète un peu un tiraillement dans ma personnalité, je crois.
Les influences culturelles et littéraires qui t'accompagnent dans l'écriture sont-elles plutôt francophones ou bien plutôt anglophones?
Ce sont les deux, finalement, parce que j'ai toujours fallu que je fasse les deux. Alors, à un moment donné, j'ai fait ma maîtrise en français. Mais mes grandes influences sont Baudelaire, les poètes symbolistes, par exemple. Les poètes symbolistes du 20e siècle aussi, les surréalistes m'ont beaucoup influencé. J'adore Paul Éluard. Au Canada, j'ai beaucoup aimé Gaston Miron. J'adore son écriture. Et Anne Hébert, ce sont les poètes francophones du Canada qui m'ont le plus influencé. Et en anglais, j'ai beaucoup lu aussi. Alors, ça qui m'a le plus influencé, c'est Virginia Woolf. Elle a une façon d'écrire romantique et un peu surréaliste. Plonge là-dedans, ça vient me chercher. J'adore ça. Alors, ce sont les deux. Et je ne sais pas lesquels de ces auteurs-là influencent dans l'autre langue. Par exemple, est-ce que Baudelaire influence la poésie en anglais? Est-ce que Woolf influence mon écriture en français? Je ne saurais le dire, mais c'est omniprésent dans mon écriture.
Aurais-tu parfois envie d'écrire uniquement en anglais?
Parfois, là, lorsque j'ai une certaine dépression, là où je suis un peu déçu parce que ce que j'avais dit au début, là, nos livres, quand on les fait paraître, souvent ils ne circulent pas beaucoup, surtout depuis la disparition de la revue Liaison, qui était vraiment une porte sur la littérature à l'échelle du pays. Depuis ce temps-là, parfois c'est le silence. Nos éditeurs francophones font un très beau travail. Mais parfois, c'est un peu décourageant. Et je ne sais pas si d'autres auteurs francophones, franco-canadiens, sentent la même chose. Pas c'est parce que toute ma vie, à me plonger dans la littérature franco-canadienne et ce que ça représente. Donc, j'ai quelques doutes parfois, mais je reviens toujours au point de départ. Je suis un écrivain francophone.
Ton œuvre en français fait souvent référence au contexte francophone et à ton expérience en tant que francophone. Qu'en est-il pour ton œuvre en anglais? Est-ce que tu inclus ce savoir personnel et...
En anglais, absolument pas. Franchement, j'ai jamais écrit peut-être quelques petits textes où j'ai parlé un peu de certaines situations que je vivais. Mais on dirait que ce que j'écris en anglais est un peu séparé de ce que je vis dans la vraie vie. Là. Donc, c'est pas surprenant que souvent c'est de la fantaisie, de la science-fiction, des contes d'horreur, des choses comme ça. En français aussi, c'est assez rare que je situe très, très clairement l'univers dans lequel les choses se passent. Seulement dans quelques textes de mémoire, quelques livres, des récits de voyage. Mais en général, dans ma poésie, il y a presque jamais une identification du lieu. Donc, je suis toujours un petit peu à l'extérieur du monde dans lequel je vis. Mais il y a quelques exceptions. Et on dirait, si on lisait ma poésie, on aurait de la difficulté à dire que je suis un poète qui vient du Canada ou de l'Ouest canadien. C'est très caché dans mon écriture.
Et nous allons finir par un éloge au bilinguisme. Comment aimerais-tu conclure sur ce bilinguisme que nous vivons?
Il y a du pour et du contre, parce que l'idée est magnifique. Je pense que c'est extraordinaire de faire valoir deux langues officielles. Mais en termes pratiques, si on voit comment est construit le pays, souvent c'est pas tellement vrai. Il y a pas de véritable bilinguisme. Les anglophones dans l'Ouest, par exemple, qui parlent de français, souvent c'est parce que les parents les mettent dans les écoles francophones pour avoir un meilleur poste dans le gouvernement plus tard, par exemple. C'est pas un véritable engagement, mais cela dit, j'aimerais que ce soit le bilinguisme, mais aussi axé sur deux ou trois autres langues, parce que c'est tellement extraordinaire d'avoir plusieurs langues. Donc, il y a une espèce de contradiction pour moi dans la notion. Alors, il y a toujours des questionnements, mais je pense qu'il y a plus de côté positif que de négatif dans la chose.
Merci, Paul Savoie. Artiste numérique, poète et musicien, Daniel Dugas a participé à des expositions individuelles et de groupe, ainsi qu'à plusieurs festivals et événements de poésie en Amérique du Nord, en Europe, au Mexique et en Australie. En poésie, il est, entre autres, l'auteur de « Des ravins au bout des lèvres » de Morse Theory, « Au large des objets perdus »,« La limite élastique »,« Le bruit des choses » et « Les bibelots de tungstène ». Plus récemment, en 2018, il a publié avec Valérie Leblanc un essai poétique bilingue intitulé Everglades. Basé sur leur voyage dans le parc national du même nom en Floride, cet ouvrage mélangeant écriture et photographie explore les effets de la présence humaine sur le milieu naturel. Everglades est une ode à la beauté, à la fragilité et à la résilience de la nature. En 2015, Daniel Dugas publiait « L'esprit du temps, The Spirit of Time » à l'occasion d'un séjour à Sydney, en Australie. L'esprit du temps a été composé à partir de photographies que l'artiste, l'auteur, a prises sur son chemin quotidien. Chaque jour, dans son bureau, il ouvre ses nuanciers préférés et choisit deux couleurs qui caractérisent le plus précisément les photos de la matinée. À partir de celles-ci, il crée un court texte poétique qui reflète le moment imprimé sur l'image. Le recueil égrène ainsi des photos, des noms de couleurs, leurs illustrations et les textes. Ceux-ci sont bilingues. Dugas les a traduits en français ou en anglais selon la langue de départ. Pour lui qui écrit dans les deux langues, c'est, dit-il, l'occasion de multiples croisements, de fécondations qui ont contribué à rehausser le texte ou encore à le transformer substantiellement. L'esprit du temps, proche du carnet de voyage, du dictionnaire de couleurs, du journal personnel, pratique avant tout la description. Toutefois, celle-ci n'est ni portrait, ni paysage, ni nature morte, mais plutôt documentaire, ludique, dépersonnalisé, lui-même nuancier. Collection de photos commentées, il est un album du souvenir et sa poésie du quotidien nous ouvre un monde paisible, contemplateur, immergé dans la vie. En voici deux courts extraits. Le premier, Pastel Sky. We are all wearing yoga pants, pale colors of our time. Let us lie down on our beautiful natural rubber mats and breathe deeply. Et voici sa traduction. Plafond pastel. Nous voilà en pantalon de yoga, allongés dans la pâleur des couleurs du temps, sur ces beaux tapis en caoutchouc naturel. Respirons profondément. La traduction en français est donc de l'autre côté de la version originale en français. Et le dernier exemple, Limit. The sky is the limit of what is possible. The limit of the horizon that keeps moving. The reason that keeps shifting. The limit of a sky is the limit of hope. Of what can become, of what could be. Et en français, de Daniel Dugas, Limite. Le ciel marque la limite du possible, la limite de l'horizon, de la mouvance, de la raison, la limite du ciel ou la limite de l'espoir, du devenir, du ce qui pourrait être. Daniel Dugas, tu es auteur franco-canadien, c'est-à-dire œuvrant en milieu linguistique minoritaire. Quels sont les plaisirs et les défis de ce statut compliqué?
Le plaisir, c'est sûrement de fonctionner, de pouvoir fonctionner dans des univers parallèles. Le défi, c'est probablement de faire sens de l'ensemble et non pas des parties singulières. Parce qu'on le veuille ou pas, œuvrer en milieu linguistique minoritaire, c'est aussi être impliqué dans nos relations de pouvoir. On sait, bon, au Nouveau-Brunswick, le bilinguisme, c'est une grosse année, là, 2019. Le bilinguisme officiel a été institué en avril 69, puis au Canada, c'était au mois de septembre 69. Puis quand je pense à ces événements-là, puis à ce qui se passe aujourd'hui au niveau national, j'ai de la difficulté à visualiser comment on a pu s'entendre sur de telles questions de société. Il me semble qu'aujourd'hui, comme partout ailleurs, on dirait qu'on est de plus en plus divisé, puis ça, on est comme incapable de voir grand. Alors, c'est dans ce genre de mixture-là qu'on évolue. Mais moi, le bilinguisme, ça m'a toujours apparu comme une diversité. Puis pour nous autres ici, au Canada, ben, c'est le français et l'anglais. Quoique, alors que j'habitais en Alberta, les gens du nord de l'Alberta, il y a une population francophone, de franco-albertaine, là, mais il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens. L'Ukrainien est un langage qui se perd, mais Là-bas, les gens avaient de la misère à comprendre pourquoi c'était français en anglais, parce que tout le monde parlait anglais et ukrainien. Ma pratique créatrice, là, entre le texte et l'image, c'est une espèce de bilinguisme du langage, là, parce que la langue, c'est un système de signes vocaux là, qu'on produit, mais c'est aussi un ensemble de signes graphiques. Milieu minoritaire linguistique ici en Acadie, anglais, français, mais aussi au niveau de texte-image. D'être poète dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi être une minorité. C'est ça un peu les défis là, moi, que je vois, mais c'est des défis puis c'est aussi des opportunités.
Même si tu es compté parmi les auteurs franco-canadiens, tu écris également en anglais. Comment ce travail en anglais se présente-t-il? Tu as une utilisation particulière de la langue, du bilinguisme. Et de quelle manière que l'anglais, ton écriture en anglais se différencie-t-elle de ton écriture en français?
Souvent, le choix de la langue d'écriture est guidé par le projet ou par le lieu de l'écriture. On écrit des choses pour que ces textes-là soient lus. Si un projet prend place dans un lieu où on parle l'anglais, ça me semble naturel soit d'écrire en anglais ou soit de le traduire, soit de traduire les textes en anglais. Puis même dans la traduction, c'est aussi un acte créateur, là. Dire les choses en français ou en anglais, il y a quand même une vision du monde qui est différente. D'aller d'un langage à l'autre, ça permet de peut-être voir des choses qui étaient invisibles là, dans le premier jet. J'ai vu ça quand j'ai écrit L'Esprit du temps, j'écrivais des textes soit en anglais, soit en français, puis je les traduisais, mais c'était difficile à traduire ce qui n'était pas très clair. En faisant la traduction, ça m'a ouvert d'autres portes.
Précisons que L'Esprit du temps, c'est un ouvrage où les textes sont sur une page en français, sur une autre page en anglais, et pour chaque texte, il y a une photographie. Tout ça basé sur un système, un codage, un code de couleur. Il faut dire que les traductions sont à plusieurs reprises, sont un petit peu fantaisistes et nous permettent de pénétrer dans des mondes entièrement différents et même parfois un petit peu contradictoires. Dans ce livre-là, est-ce que tu as préféré écrire d'abord en français ou d'abord en anglais?
Bon, c'était les deux. C'était selon le moment, là. Dans le projet, je mettais aussi à toutes les semaines. Je mettais des codes QR là, sur le mur du café pour que les gens puissent aller sur mon blog puis lire les textes. Alors, les textes devaient être en anglais pour que les gens puissent les lire. C'était soit écrit en anglais, soit en français. Là. J'avais pas de règles qui me disaient ça doit être écrit en français avant ou en anglais. C'était vraiment selon le moment. Là.
Dans quelle langue penses-tu écrire avec plus de facilité? Quelle est ta première langue, s'il y en a une?
J'ai l'impression d'avoir autant d'aisance à écrire en anglais qu'en français, là, mais ma langue maternelle est le français. Je pense que c'est peut-être naturel que les tentacules là, de ma première langue soient plus longs que les autres tentacules.
Les influences culturelles et littéraires qui t'accompagnent dans l'écriture, pourrais-tu dire qu'elles sont plutôt francophones ou plutôt anglophones?
Les deux.
Qu'est-ce que tu lis en anglais? Qu'est-ce que tu préfères lire en français?
J'ai beaucoup de décès, souvent en anglais. Des fois, j'ai des livres qui ont été écrits en français, dans la langue originale, mais j'ai des versions anglaises.
Fois envie d'écrire uniquement en anglais?
Pour le reste de ma vie, non. Que ce soit en anglais ou en français, de me limiter à une seule langue, j'aurais l'impression de m'empêcher d'exister là, complètement. Quand j'écris en français ou en anglais, je pense que je suis dans le moment là, d'écriture. Quand j'écris en anglais, je pense en anglais. Quand j'écris en français, je pense en français. Ce qui n'empêche pas l'une ou l'autre des langues là, d'intervenir dans le processus puis de changer faire un peu de chambardement. Là.
Tu es publié par d'excellentes maisons d'édition francophones hors du Québec et ton œuvre est très appréciée. Considères-tu qu'écrire en milieu linguistique minoritaire joue un rôle dans ton œuvre? Ton œuvre en français fait-elle allusion au contexte francophone minoritaire? Et qu'en est-il pour ton œuvre en anglais?
Non, je ne pense pas que c'est un sujet d'écriture, ni en français, ni en anglais. En tout cas, je ne pense pas. Les thèmes qui me sont chers, il y a souvent l'économie, la politique, la technologie, l'environnement, que ce soit
l'environnement naturel ou les environnements construits. Des thèmes qui me semblent être moins pointus, là, que la situation linguistique dans une partie spécifique d'un territoire. Je dis pas que c'est pas un sujet intéressant. Je dis seulement que je me sens être humain et je me sens être vivant avant d'être parlant français en situation minoritaire. Puis c'est peut-être aussi dû au fait que je travaille dans plusieurs domaines créatifs, dans le visuel, en musique, dans le texte, puis que je voyage entre des différentes communautés créatives qui sont elles-mêmes multilingues. Alors ça m'apparaît peut-être pas un sujet qui me déchire.
Mais finissons quand même par un éloge du bilinguisme. Comment aimerais-tu conclure sur ce sujet du bilinguisme et de l'écriture, de la création?
J'aimerais conclure avec, en fait, un mot de l'anthropologiste américain Clyde Cluckhorn, qui disait que la langue était une philosophie, que la langue c'était une façon de voir le monde. Puis dans un passage d'un de ses livres, il parlait de la catégorie du temps dans le grec ancien. Puis je vais citer son chose. Ceux qui débutent dans l'étude du grec classique sont souvent déroutés par le mot, puis là il y a un mot grec, là, ça ressemble à oignon, mais c'est pas ça là, le mot, qui signifie tantôt derrière, tantôt à l'avenir. Pour nous, c'est déconcertant parce que nous nous imaginons nous déplaçant à travers le temps. Les Grecs, eux, se considéraient comme immobiles. C'est le temps qui venait derrière eux, les dépassait, puis, poursuivant sa route, devenait le passé qui restait devant leurs yeux. Bah, je trouve ça vraiment un bel exemple de comment la langue peut nous renseigner sur le monde dans lequel on vit, puis les différences, les nuances qui peuvent exister dans chaque langue. Parler plusieurs langues, ben c'est peut-être se donner la chance de voir le monde sous plusieurs facettes.
Merci, Daniel Dugas. Un grand merci. Merci, Jean Ntakirutimana, pour ces commentaires qui nous montrent que le bilinguisme, et en particulier le bilinguisme littéraire, tel qu'il est pratiqué par nos deux auteurs franco-canadiens, Paul Savoie et Daniel Dugas, a de beaux jours devant lui.
Thank you for joining us for this marathon day of Rendez-vous de la Francophonie, presented by the Canadian Foundation for Cross-Cultural Dialogue, the National Campus and Community Radio Association, and this station. For more information on les Rendez-vous de la Francophonie events, or to provide feedback on the show, visit www.rvf.ca.